Amis auditeurs, bonjour. Nous parvenons au dernier entretien programmé avec M. Jean-Paul Brizel, juge au tribunal administratif de Nouméa, qui nous permet une nouvelle approche de la doctrine sociale de l'Église. Jean-Paul, ainsi que vous nous l'avez rappelé précédemment, la doctrine sociale de l'Église est fondée sur la loi naturelle. Je vous propose, dans ce laps de temps imparti, d'aborder rapidement différents thèmes en faisant, quand cela se peut, le parallèle entre la doctrine sociale de l'Église et le droit positif.
Effectivement, votre question est, permettez-moi de vous le dire, est fort bien posée, parce que il y a des zones de désaccord où il y a parfois un gouffre profond entre, selon moi en tout cas, entre le droit positif et la loi naturelle, mais il y a aussi des points de convergence. Hein. Sachant que, comme l'a dit un juriste éminent, en définitive, le droit naturel, c'est du droit positif en puissance. Normalement, la corrélation devrait être mécaniquement totale entre les deux. Mais il existe des zones de divergence. Il existe fort heureusement des zones de convergence. Et c'est précisément sur ces zones de convergence que nous pourrions nous appesantir un peu maintenant.
Par exemple, la destination universelle des biens et la propriété privée.
Oui, la propriété privée n'est pas justement un droit absolu. Comme le prétendaient les concepteurs ou les rédacteurs de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est un droit relatif, c'est-à-dire qu'il doit être subordonné aux autres, qu'il doit faire en sorte que la propriété doit être proportionnée aux besoins de la personne pour précisément atteindre le bien commun, mais elle ne doit pas être spoliatrice, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas se faire au détriment d'autrui. Et c'est dans ce cadre qu'il faut restituer l'essence même de la propriété privée. Et on le voit, par exemple, dans le droit public, des procédures visant à exproprier des personnes, dès lors que c'est justifié par un autre intérêt, le bien commun, qui, lui, a comme fondement le bien de la communauté, au-delà des biens propres de l'individu.
La liberté.
Mais la liberté est une question fondamentale qui nous préoccupe chacun d'entre nous, bien sûr. C'est la question éternelle de la philosophie. Alors, vous le savez, la philosophie, qui d'ailleurs, je crois, faut revenir aux sources mêmes de la philosophie, ce n'est pas quelque chose qui est réservé aux professeurs, qui est réservé aux étudiants. La philosophie, c'est pour apprendre à mieux vivre, et chacun de nous doit accéder, doit fréquenter les grands philosophes pour enrichir sa vie et l'améliorer. Alors, si je regarde la philosophie classique, on peut distinguer deux fondamentaux en ce qui concerne la liberté. Il y a d'abord Descartes. Hein, Descartes, c'est le libre arbitre. C'est-à-dire, il faut agir en fonction de ce que l'on considère comme étant bien, en fonction de ses propres déterminations. Mais on peut, en ce sens, considérer qu'agir selon ses pulsions est bien. Et on voit l'enchaînement que ça peut provoquer dans une direction qui est non pas la liberté, mais l'esclavage et l'asservissement. Je crois qu'il y a aussi un grand courant philosophique, c'est celui de Spinoza, qui nous enseigne, d'une manière un peu simpliste peut-être, mais que tout est déterminisme et que la liberté va consister pour l'homme à s'affranchir de ce déterminisme, de cette détermination, pour être libre, pour en quelque sorte arriver à rétablir quelques éléments de liberté dans un déterminisme d'ensemble. Et puis il y a peut-être une troisième approche de la liberté, c'est la nôtre, c'est celle des chrétiens. C'est-à-dire que la liberté, en fait, ça n'est que conformer sa vie à la loi naturelle. C'est-à-dire conformer sa vie à l'image de Dieu en nous et peut-être essayer de retrouver cette image obscurcie par le péché. Et c'est là toute la dimension la plus profonde de la liberté, c'est-à-dire, ressourcer sa vie, remettre au cœur de sa vie la transcendance profonde, que la source de l'agir humain, que la source de notre liberté, eh bien, ce doit être précisément la transcendance, ce doit être l'image de Dieu au plus profond de notre cœur.
Et l'égalité, Jean-Paul ?
L'égalité procède de la dignité. Hein, je crois l'avoir dit et je le répète encore une fois, ce qui est au cœur de la doctrine sociale de l'Église, c'est l'éminente dignité de la personne humaine. Et cette éminente dignité de la personne humaine sous-entend que chaque individu doit être regardée avec la même égalité, parce que procédant de cette même dignité, quels que soient les accidents au sens aristotélicien de la vie d'un homme, que ce soit la couleur de sa peau, son ethnie, l'endroit où il vit, tout ça n'a aucune importance, parce que dans sa nature même, l'homme procède d'une égale dignité, par voie de conséquence, l'égalité entre les personnes doit être fondamentale, mais elle ne doit pas être absolue, parce que les inégalités peuvent être corrigées par certaines inégalités. On le voit par exemple en matière d'aménagement du territoire. On peut parler d'inégalités visant à rétablir l'égalité naturelle. Dans notre pays, en Nouvelle-Calédonie, l'aménagement du territoire qui va privilégier le Nord au souci de rééquilibrer correspond tout à fait à ce principe d'égalité.
La fraternité ?
La fraternité découle là aussi de la dignité. Nous sommes tous frères, nous participons tous à l'éminente dignité. Et vous voyez que le triptyque que vous venez de citer, Monique, liberté, égalité, fraternité, c'est notre devise républicaine. Et que ainsi, le droit positif, qui est le nôtre, reproduit les fondamentaux de la doctrine sociale de l'Église.
La subsidiarité.
Alors, la subsidiarité, c'est un principe de droit ecclésiastique qui a été repris par les fondateurs de l'Église, qui signifie, on engage peut-être assez simple, assez clair pour que ce soit compréhensible, que toute communauté humaine de base doit faire tout ce qu'elle peut faire avant d'en se référer à la communauté supérieure. Et pour les collectivités, c'est ce qu'on appelle la clause générale de compétence. Une collectivité comme une commune dispose d'une compétence générale, et c'est ce qu'on le vocable pour les communes, c'est la commune gère par ses libérations les affaires de la commune. C'est-à-dire qu'elle gère tout, sauf ce qu'elle ne peut pas gérer par son l'étroitesse de son par ses caractéristiques techniques. Elle va s'en référer à l'action supérieure, mais elle est d'abord une compétence générale. Il en va de même pour la famille. La famille est une compétence générale pour tout ce qui concerne les enfants, notamment pour la rééducation. C'est la famille qui est responsable de l'éducation des enfants. Elle se réfère certes à l'éducation nationale, mais ce n'est pas un absolu. C'est elle qui est responsable.
La solidarité ?
Alors, la solidarité, bien sûr, c'est un principe de droit positif, puisque la solidarité, par exemple, est inscrite dans la Constitution de la République française. Elle est inscrite dans la Déclaration de 1946, les principes fondamentaux particulièrement nécessaires pour notre temps, les principes économiques et sociaux, au sein desquels se trouve la solidarité, et il y a un droit absolu à ce qu'un individu invoque la solidarité dans les catastrophes naturelles ou toute autre circonstance, par exemple. C'est un droit positif.
La sociabilité humaine.
Alors, la sociabilité humaine n'est pas à proprement parler, si vous voulez, une norme de droit positif, mais c'est de la philosophie pure. Je l'ai expliqué, le fond de la pensée d'Aristote, c'est précisément que l'individu est un être social, c'est un être sociable qui ne peut pas vivre seul, qu'il vit en communauté. C'est cette dimension communautaire que le droit prend en compte et doit prendre en compte. Et c'est justement cette sociabilité de l'individu est une condition de l'accession au bien commun.
Et pour conclure ?
Écoutez, pour conclure, je dirais que ces conférences ont été pour moi passionnantes, qu'elles ont montré que beaucoup de gens s'y intéressaient, et je crois qu'il faut continuer. Il faut continuer sous forme de rencontres, en petits groupes, en travaillant sur les textes, en réfléchissant, et en essayant de se fixer à soi-même un objectif. Comment puis-je aujourd'hui introduire dans ma vie des petits morceaux de doctrine sociale de l'Église, un peu de fraternité, un peu de sociabilité, un peu de solidarité, et comme ça ma vie va s'enrichir, et comme ça peut-être qu'en me transformant moi-même, je peux réussir, comme le disait, je crois, Catherine de Sienne, je crois qu'une âme qui s'élève, élève le monde.
Notre émission se termine, amis auditeurs. Nous remercions chaleureusement Jean-Paul Brizel pour ce temps qu'il nous a consacré. Et nous vous souhaitons à tous un bon dimanche.